Laudetur Jesus Christus.
Plus de deux mois de guerre ouverte entre le Hezbollah et l'armée israélienne et une trêve enfin signée. Un cessez-le-feu est entré en vigueur tôt ce matin dans le sud du Liban. Il prévoit notamment le redéploiement de l'armée libanaise dans la région et le soutien accru des forces des Nations Unies. Conséquence de cette trêve avec Israël, le Hamas palestinien se dit prêt ce matin à son tour au compromis. Mais l'État hébreu continue d'assiéger la bande de Gaza et le drame humanitaire se poursuit, nous rappellera notre correspondante à Jérusalem. À la une de ce journal également, ce rapprochement entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Les deux voisins ont signé un protocole qui devrait permettre le retrait des troupes rwandaises en RDC. Nous parlerons aussi d'un conflit oublié, celui de la région Amhara en Éthiopie qui a ruiné le système de santé locale. Et puis dans notre dossier, gros plan ce matin sur le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, le marché commun latino-américain. Son adoption possible par Bruxelles provoque de nombreuses tensions, nous en dialoguerons avec notre invité à la fin de ce journal.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonjour, il était 4h du matin à Beyrouth cette nuit quand les armes se sont tues au Liban. Après des semaines de tractations diplomatiques, un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah est donc entré en vigueur, négocié par les États-Unis et la France. Il consiste essentiellement en l'application de la résolution 1701 des Nations Unies adoptée en 2006 après la dernière guerre Israël-Hezbollah. C'est le cabinet de sécurité israélien qui a validé hier soir cette trêve de 60 jours. À Tel Aviv, Julia Ganancia.
Le cessez-le-feu a été approuvé dans la soirée par le cabinet de sécurité israélien. Dans la foulée, le Premier ministre s'est exprimé pour brandir des menaces en cas de non-respect de l'accord. Je cite « Si le Hezbollah se réarme, rompt l'accord, nous attaquerons. » Et de poursuivre « Nous avons ramené le Hezbollah une dizaine d'années en arrière, il n'est plus le même. » Fin de citation. Face aux Israéliens, le chef du gouvernement a justifié la trêve actuelle par trois raisons majeures. Se focaliser sur la menace iranienne, permettre aux troupes de se reposer et acquérir de nouvelles munitions, et enfin provoquer l'isolement du Hamas. Alors qu'il intervenait à la télévision pour expliquer ses raisons, son armée continuait de pillonner différentes régions du Liban, y compris le cœur de la capitale libanaise, avant que les armes se taisent à 4h du matin, comme l'avait annoncé Joe Biden. Le projet américain prévoit 60 jours de trêve durant laquelle le Hezbollah doit se retirer du sud du Liban pour laisser l'armée libanaise s'y déployer. À Tel Aviv, Julia Ganancia pour Radio Vatican.
L'armée libanaise qui dit ce matin prendre les mesures nécessaires pour se redéployer dans le sud du Liban. L'armée qui, dans un communiqué, demande aussi aux civils libanais de patienter avant de retourner dans leur village. Depuis octobre 2023, plus de 3800 personnes ont été tuées au Liban. La plupart ces deux derniers mois quand Israël a entamé ses opérations sur le sol du pays du Cèdre. Côté israélien, 82 militaires et 40 civils ont été tués en 13 mois dans des affrontements avec le Hezbollah, selon les autorités. Beaucoup plus au sud, dans la bande de Gaza, le Hamas palestinien se dit lui aussi prêt à une trêve. La situation humanitaire y reste catastrophique. Les véhicules de secours sont à l'arrêt dans le nord de l'enclave, faute de carburant. Les agences des Nations Unies ont lancé de nouveaux appels d'urgence à Israël pour l'ouverture de points de passage afin d'y faire entrer de l'aide. Valérie Ferron.
Pour la deuxième année consécutive, les 2 300 000 enfants et adultes de la bande de Gaza sont confrontés, outre les bombardements israéliens, à la faim et au froid en ce début d'hiver. Les pluies et le vent ont endommagé ou arraché ces derniers jours plus de 10 000 tentes de familles déplacées qui se trouvaient le long de la côte. L'Agence des Nations Unies, l'UNRWA, signale par ailleurs que quelques 500 000 personnes sont menacées par des inondations en raison des destructions par Israël des infrastructures civiles. Toute la population est également menacée par le froid, qui peut être fatal pour une population affaibli par le manque de nourriture et qui ne dispose pas de vêtements chauds ou de couverture. Israël continue en effet de bloquer quasi totalement l'acheminement de l'aide humanitaire. La défense civile palestinienne estime que 110 à 135 000 tentes usées doivent être remplacées d'urgence. Des convois transportant quelques 250 000 tentes neuves attendent de l'autre côté de la frontière depuis des mois l'autorisation d'entrée. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
Vladimir Poutine attendu ce mercredi au Kazakhstan, l'un de ses alliés régionaux. À l'agenda de ses rencontres, des projets énergétiques. Moscou a grand besoin de s'approvisionner, surtout depuis l'embargo pétrolier imposé par les Occidentaux depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022. C'est la 11e visite du président russe en Asie centrale depuis le début de la guerre. La Chine devrait connaître en 2025 son pic de consommation du charbon. C'est ce que révèle ce mercredi un rapport publié par deux centres de réflexion. La deuxième puissance mondiale ne ménage pas ses efforts pour décarboner son énergie, selon le rapport. Les permis de construire ainsi de centrales au charbon en Chine ont chuté de 83% au cours du premier semestre 2024. Ouvrons à présent une page africaine et cette nouvelle encourageante. La République démocratique du Congo et le Rwanda font un pas l'un vers l'autre. Les deux pays en conflit ouvert depuis des années près de leurs frontières communes ont approuvé lundi soir un document qui est le prélude d'un désengagement des troupes rwandaises en territoire congolais. L'annonce a été faite par l'Angola, pays médiateur dans cette crise. À Kinshasa, les précisions de Pascal Moulégois.
La première mouture de cette feuille de route établie par les experts de deux pays avait été rejetée en octobre dernier par Kinshasa. La mouture signée lundi soir a été harmonisée, nous précise une source congolaise. Elle prévoit pour la partie congolaise la neutralisation des rebelles Hutu rwandais FDLR, un groupe Hutu formé à l'origine d'anciens génocidaires rwandais. Les documents prévoient aussi et surtout les retraits des forces rwandaises déployées dans la province du Nord Kivu, des forces composées jusqu'à 4000 soldats selon les derniers rapports des Nations Unies. Kinshasa considère que cet engagement était un aveu de la part de Kigali qui n'a eu de cesse de démentir la présence de ses troupes en RDC. Les autorités rwandaises considèrent les troupes déployées comme un mécanisme de défense des frontières. Dans ce duel, craint un diplomate européen en poste à Kinshasa, les rebelles du M23 ne se reconnaissent pas partie prenante aux négociations. Le mouvement rebelle chapeauté par Corneille Nangaa a prévenu ne pas être concerné par les résolutions des discussions auxquelles il n'est pas concerné. Pascal Moulégua, Kinshasa, Radio Vatican.
En Éthiopie, c'est un conflit qui reste irrésolu et fait peu la une des journaux. Celui qui déchire depuis des mois la région Amhara, dans le nord-ouest du pays, au sud de la région du Tigré. L'une des conséquences des combats est de réduire presque à néant le système de santé. C'est l'alerte lancée il y a quelques jours par le gouvernement fédéral. À Addis Abeba, la correspondance d'Augustine Passy.
Le conflit dans la région Amhara, au nord de l'Éthiopie, a un impact catastrophique sur les services de santé. C'est ce qu'a déclaré le ministre d'État, Ayele Tessom. Le responsable politique alerte sur des taux alarmants de malnutrition aiguë, en particulier chez les enfants. Il rappelle aussi que l'accès humanitaire est devenu difficile à cause des affrontements entre les rebelles Fano et les troupes fédérales. Ces combats ont commencé peu après la fin de la guerre dans la région voisine du Tigré et se sont intensifiés en août 2023. L'ONG internationale ACLED a recensé le 5 novembre les bombardements les plus meurtriers depuis le début du conflit. Ils ont fait au moins 43 morts dans la ville de Zibiste. L'accès restreint des humanitaires et des journalistes empêche de connaître le nombre total de décès. Les combats s'accompagnent en tout cas d'une campagne d'arrestation arbitraire de masse menée par l'armée fédérale et la police. Et puis cette guerre ne prive pas seulement les riverains de soins. Plus de 5 millions d'élèves sont également déscolarisés, d'après le bureau régional de l'éducation en Amhara. Addis Abeba, Augustine Passy pour Radio Vatican.
La nouvelle Commission européenne attend le feu vert aujourd'hui des eurodéputés. Ce mercredi à Strasbourg, elle devrait approuver le nouveau collège des commissaires pour le deuxième mandat de l'Allemande Ursula von der Leyen. Une commission qui penche nettement plus à droite que les précédentes, fruit des résultats des dernières élections européennes au mois de juin. Ces dernières semaines ont donné lieu à de vives tensions entre les différents groupes au Parlement européen. Certains postes de commissaires, comme celui de l'Italien Raffaele Fitto, membre du parti Fratelli d'Italia, de Giorgia Meloni, étant rejeté par la gauche et les libéraux. Il a toujours été animé par le désir de témoigner avec douceur et sagesse de l'amour de Dieu pour l'homme en œuvrant pour la fraternité entre les peuples et les religions. L'hommage du pape François hier au cardinal Miguel Ángel Ayuso, le préfet du dicastère pour le dialogue interreligieux, s'est éteint lundi dernier. Ses obsèques seront célébrées tout à l'heure ce mercredi à 14h dans la basilique Saint-Pierre. Le pape François présidera le rite des derniers sacrements. Nous y reviendrons évidemment dans nos prochaines éditions. Et puis, ne manquez pas, d'ici une vingtaine de minutes, l'audience générale du pape François, l'audience du mercredi. Une audience à suivre évidemment en direct sur notre page vaticannews.va et sur notre page Facebook. Allons-nous vers l'épilogue de négociations qui durent depuis plus de 20 ans? C'est la question que se posent les pays de l'Union européenne ainsi que ceux du Mercosur, le marché latino-américain qui travaille à un accord de libre-échange. Alors que ce traité pourrait être conclu dans les prochains jours, plusieurs pays ont redit ces derniers jours leur opposition, au premier rang desquels la France. Hier, la ministre française de l'Agriculture a réaffirmé cette position devant l'Assemblée nationale dans un contexte de grogne sociale chez les agriculteurs. Ceux-ci craignent notamment une concurrence déloyale de la part des producteurs sud-américains. En effet, les inquiétudes se multiplient sur le respect notamment des normes sociales et environnementales en usage dans les pays d'Amérique du Sud. Toutefois, cet accord ne devrait pas fusionner et ne devrait fusionner en aucun cas les deux marchés communs. Et les produits importés dans l'espace Schengen devront respecter invariablement les normes de l'Union européenne. C'est ce que nous explique ce matin l'invité de notre dossier, Alan Hervé. Il est professeur de droit public à Sciences Po à Rennes.
Il faut bien comprendre que quand on a un accord de libre-échange qui est négocié avec un pays tiers à l'Union européenne, ici les pays du Mercosur, cela ne signifie pas que chacune des parties renonce à son propre droit. C'est un principe fondamental du droit international. Tout pays choisit son système juridique, choisit ses règles, toutes ses normes, qu'elles soient économiques, sociales ou environnementales. La seule limite à cela, c'est qu'on peut se contraindre à respecter certaines normes, certains standards via des traités internationaux, notamment sur l'environnement. Lorsque l'on négocie un accord de libre-échange, on ne négocie pas sur les normes, on négocie une libéralisation des échanges entre deux blocs, deux pays, deux partenaires, qui gardent malgré tout une autonomie, une indépendance sur le plan de leur propre droit.
Et pourtant, on entend parfois parler de clauses miroirs, c'est-à-dire des clauses qui obligeraient les États en miroir à respecter les normes de l'Union européenne.
C'est une expression qui est apparue dans le débat il y a quelques années, mais c'est une expression de politique qui, à mon sens, n'ont peut-être pas toujours une compréhension fine des règles du commerce international, de ce qu'est un accord de libre-échange. Cette expression, elle a fait florès, elle est très utilisée par les politiques, etc., mais elle n'a aucune traduction concrète. En vérité, je ne sais pas bien à quoi cela peut renvoyer. L'idée de mettre en place des clauses dans un accord commercial qui imposerait à un pays tiers de reprendre la législation européenne, c'est une idée qui ne serait pas acceptée par la plupart des partenaires de l'Union parce qu'ils ont leurs propres droits.
Dans le cadre des accords de libre-échange, comment l'Union européenne peut-elle imposer des normes aux produits venant de l'extérieur de son marché commun ?
Il n'y a pas besoin d'un accord de libre-échange pour imposer à des marchandises importées des prescriptions, des règles, des standards de l'Union européenne. Et ça veut dire que même si la marchandise a été fabriquée et produite dans un autre pays, elle doit, à partir du moment où elle rentre dans l'Union, respecter ses standards. Par exemple, dans l'Union européenne, il existe une législation qui porte sur les produits chimiques et qui prévoit l'interdiction notamment de l'utilisation des produits chimiques les plus dangereux. Si bien qu'une marchandise qui est exportée depuis, on va dire, le Brésil d'ores et déjà, et qui arrive vers l'Union, en principe, au moment où elle franchit la frontière intérieure de l'Union européenne, où elle arrive au port d'Anvers, au port de Rotterdam, les autorités douanières doivent s'assurer, faire en sorte que ces marchandises respectent bien les prescriptions de la législation européenne. Il y a eu beaucoup de mesures de législation unilatérale de l'Union, donc des mesures prises par l'Union européenne ces dernières années dans le cadre du pacte vert, le Green Deal, qui impose en fait aux importations un certain nombre de prescriptions environnementales.
Vous évoquiez plusieurs normes sur lesquelles peuvent s'entendre les parties à l'accord UE-Mercosur. Comment fonctionnent ces normes à minima ?
Il est possible dans ces accords de prévoir des chapitres de l'accord de libre-échange qui vont porter sur les normes sociales et environnementales. C'est ce que fait l'accord avec le Mercosur en renvoyant dans un chapitre qui s'appelle le chapitre développement durable à un engagement des deux parties à l'accord, donc les pays du Mercosur et ceux de l'Union européenne, à respecter par exemple l'accord de Paris, à respecter des conventions dites fondamentales de l'OIT. Donc ça, on le trouve dans l'accord. C'est en quelque sorte une forme de socle minimal d'engagement à respecter des droits fondamentaux, mais qui a malgré tout une valeur juridique assez faible, parce qu'il n'est pas possible d'actionner des mesures de rétorsion commerciale en l'état de l'accord UE-Mercosur de sa version publiée en 2019.
Voilà, et rappelons les quatre pays membres du Mercosur, ce marché latino-américain, le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay. Interrogé par Jean-Benoît Harel, Alan Hervé, professeur de droit public à l'Institut d'études politiques de Rennes, était l'invité de Radio Vatican. Et ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information du Vatican, de l'Église et du monde, ce sera à 13h, heure de Rome. J'aurai le grand plaisir de vous y retrouver et je vous souhaite d'ici là une excellente journée.